Métaphysique, Père Philippe, 10 novembre 1982, Rimont.
Soit regardé comment, avec Nietzsche, c'est Heidegger qui le dit du reste, et c'est vrai, la métaphysique est tombée le plus bas qu'elle n'ait jamais tombée. En ce sens qu'on la considère comme mensongère et source de mensonges. Très loin, pas comme... C'est pas simplement le rejet en disant elle est périmée, ce que beaucoup disent. Elle a joué un rôle. Heidegger est d'accord du reste à considérer qu'une certaine métaphysique est périmée. Pour lui, c'est la métaphysique de saint Thomas, c'est la métaphysique classique. En réalité, il ne la connaît pas, celle-là. Il connaît la métaphysique de Wolff. C'est ça qui est très très difficile, c'est que sur le même mot, nous mettons des significations très très différentes. Et ce qui fait comprendre qu'il y a des dialogues dessous. Le mot métaphysique, aujourd'hui, tout le monde croit qu'il sait ce que c'est. Alors quand on entend des gens qui ne sont pas très très ferrés sur le mot, sur métaphysique, et qui parlent de métaphysique, on a envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous mettez sous ce mot, puisque vous l'employez? On n'est pas obligé d'employer le mot métaphysique, mais si vous employez le mot métaphysique, vous devez quand même avoir une certaine signification. Cette peinture est métaphysique. Ça fait bien que c'est extraordinaire. Alors, à ce moment-là, vous comprenez que la métaphysique est bien portée. Une peinture, elle est une peinture, une œuvre d'art. Ça ne peut pas être métaphysique. Il n'y aurait que Dieu qui pourrait être créateur au niveau métaphysique. C'est l'art divin de la création qui est métaphysique. L'art humain ne peut pas l'être. C'est impossible. Alors, ce qui est important à voir, c'est la position, ce que je vous avais dit la dernière fois, je n'y reviens pas, mais j'espère que vous avez compris que la position de Nietzsche, à ce point de vue-là, était très intéressante, parce qu'elle montre que, elle montre cette opposition virulente. Nietzsche devait être un bonhomme qui n'est pas très commode, toujours. Hein. Dans la vie commune, Nietzsche devait être du propre. Mais là, ce n'est pas toujours commode. Parce qu'il devait rejeter avec violence. Il a un bon irascible. Alors Nietzsche considère que la métaphysique est à rejeter parce qu'elle est un mensonge. Le mensonge de l'être. Et on comprend très bien qu'est-ce qu'il a derrière la tête quand il dit ça. C'est la métaphysique de Platon. Donc une métaphysique à la manière de Wolff. C'est que de fait, la métaphysique veut exalter l'être et donc relativise le sensible. Relativise le visible. C'est le visible de l'invisible, vous voyez. C'est intéressant à voir, ça, parce que chez Platon, évidemment, l'opposition entre le visible et l'invisible est extrêmement nette. Et Platon relativise le visible, l'apparence. Le monde des apparences, le monde du corps, c'est un monde secondaire, mais non seulement secondaire, mais un monde qui est tout à fait second, qu'on rejette, qui n'a plus de signification. Ce qui est important, c'est le monde des formes. Alors, Nietzsche ne peut pas supporter cela. Il est anti-platonicien, au sens le plus fort qui soit, Nietzsche. Parce que Platon, c'est le mensonge. Il y a quelque chose de juste, hein, comme toujours dans certaines réactions. Il y a quelque chose de juste, c'est que si vous relativisez tellement le sensible en face de l'invisible, ça prouve que le sensible n'existe plus, n'est plus l'être. Alors, Nietzsche va lui dire au contraire, le réel, c'est le sensible. C'est ce que je vois, c'est ce que je touche. Il y a un petit peu la réaction des stoïciens, du reste en face de Platon, il y a un peu la même réaction. Il y a quelque chose de semblable, très différent des stoïciens, mais quelque chose de semblable. C'est redonner le sens au concret, redonner le sens au visible. Dire que le visible, c'est quand même quelque chose de réel, et que c'est ce réel-là que je touche, et après tout, c'est peut-être le seul réel, à la manière de Nietzsche, pas pour moi, mais c'est peut-être le seul réel, pour lui. Comme pour les stoïciens, le seul réel, c'est le corps. Il n'y a pas d'autre réel que celui-là. Donc, nous sommes en présence d'une réaction artistique très très forte, les derniers mots de Nietzsche, vous savez bien, avant sa mort, ah, ah, ah. Ça, c'est la seule chose qui fait toucher vraiment la chose importante, c'est le point de vue artistique, la créativité. En face de cela, Heidegger veut répondre. Alors, je lis tout de suite cette petite question-là, et puis nous continuerons. Vous nous avez dit, en citant Heidegger, qu'avec Nietzsche, nous assistions à la mort, à l'enterrement de première classe de la métaphysique. Hein. C'est moi qui ajoute de première classe. Mais c'est vrai, c'est l'enterrement de première classe, avec tambour et trompette. Mais il semble toujours, d'après Heidegger, que Nietzsche interprète métaphysiquement la marche de l'histoire occidentale lorsqu'il la saisit comme avènement et déploiement du nihilisme et qu'il y a chez Nietzsche une métaphysique des valeurs ainsi que de la volonté de puissance. Métaphysique au sens heideggerien du mot, c'est-à-dire une structure de base de l'étant dans son entier. Comment peut-on concilier ces deux points de vue qui sembleraient s'opposer à l'intérieur même de l'évolution de la pensée nietzschéenne? Ben, c'est toujours la même chose, c'est que le mot métaphysique recouvre des choses très différentes. Que Nietzsche est un tempérament métaphysique, on est tous d'accord. Un tempérament métaphysique. Alors, quand on dit un tempérament métaphysique, quand on parle de peinture métaphysique, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire quelque chose d'absolu, tout simplement. C'est quelque chose d'absolu. Ce que Nietzsche refuse, c'est que l'absolu soit du sensible. Que l'absolu soit séparé du sensible. Mais Nietzsche prétend bien faire quelque chose de métaphysique, mais d'une nouvelle métaphysique. D'une métaphysique qui soit la métaphysique de la créativité. La métaphysique de la création. Il se met à la place de Dieu. C'est visible, hein. C'est très net quand je vous citais cette phrase de Nietzsche qui est quand même très importante. Hein. Si Dieu existe, il est créateur. Or, je suis créateur, donc Dieu ne peut pas exister. Donc, je crois que ça, c'est net. Quand on dit ça en toute vérité, ça veut dire que on se met à la place du créateur, qu'on vénère, on veut être créateur. Or, le seul chez qui le facere, l'activité artistique est métaphysique, mais alors réellement métaphysique, c'est Dieu. Puisque Dieu peut atteindre, Dieu, par sa création, atteint l'être. Il atteint l'être, il le crée l'être. Tandis que Nietzsche ne crée pas l'être. Il le voudrait bien. Si Dieu lui laissait la possibilité, il le ferait. Tout de suite. Ce serait pas drôle d'être créateur de Nietzsche. Mais parce que ce serait assez tyrannique. Mais il voudrait bien ça, il voudrait bien le faire, mais il ne peut pas le faire. Alors il prétend. Alors on déplace le mot métaphysique, vous voyez. C'est là toute la grande question. Est-ce que la métaphysique, pour nous, peut-elle être au niveau du facere, au niveau de la réalisation artistique? Est-ce que la métaphysique, pour nous, ne peut être qu'au niveau spéculatif? Nous découvrons l'être, nous le respectons, mais nous le faisons. Notre facere est au niveau de la forme. Nous réalisons une forme, nous faisons des formes nouvelles, nous faisons de nouvelles relations. Notre agir et notre créativité est au niveau de la forme, au niveau des relations, mais pas au niveau de l'être. L'être, nous le découvrons. L'être, nous le contemplons. Mais nous ne pouvons pas le créer. Alors c'est là où il y a une redécouverte à faire, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Cette redécouverte, Heidegger ne l'a pas faite complètement, il l'a senti très fort, hein. Ça il faut reconnaître. Et c'est l'avantage de Heidegger, c'est qu'Heidegger est quand même d'une sensibilité métaphysique, entre guillemets, n'est-ce pas ? Une sensibilité très très forte. Face à Nietzsche, Heidegger comprend qu'il y a une chose très grande à réaliser, c'est de penser l'être. Il ne dit pas de créer. Et ça, quand il dit penser l'être, c'est quelqu'un qui voudrait redécouvrir la connaissance spéculative. Est-ce qu'Heidegger a vraiment redécouvert la connaissance spéculative distincte de la connaissance pratique? Ça, c'est une très grosse question. Ce serait très intéressant, du reste, pour ceux qui veulent se spécialiser un petit peu dans Heidegger et le comprendre bien, ce serait très intéressant. On peut se poser la question de cette manière-là. Est-ce que Heidegger a vraiment redécouvert la distinction entre le spéculatif et le pratique? Je ne crois pas, parce que Heidegger reste dépendant d'une pensée dialectique. Et parce qu'Heidegger reste dépendant d'une pensée dialectique, une pensée dialectique ne peut pas arriver pleinement à distinguer le point de vue spéculatif du point de vue pratique. D'une connaissance pratique et d'une connaissance spéculative. Or, Heidegger reste dépendant d'une connaissance dialectique, c'est assez significatif. Quand il essaie de nous montrer comment nous pouvons penser l'être. C'est très beau, c'est très poétique, mais je crains que ce soit trop poétique et pas assez spéculatif. Qu'il demeure dans une pensée poétique symbolique. Et donc nous redécouvrons, si vous voulez, une pensée poétique, et une pensée poétique ne peut pas être spéculative. Alors, vous vous rappelez bien, au moins ceux qui connaissent un peu Heidegger le savent, les autres, au moins, qui comprennent un peu ce cheminement heideggerien qui est intéressant. Je ne vous demande pas de vous plonger dans Heidegger. Hein, parce que vous pourrez vous plonger dans Heidegger quand vous serez très, très pénétrant dans la pensée d'Aristote au point de vue de la métaphysique et au point de vue de saint Thomas. Alors, à ce moment-là, vous pourrez lire Heidegger avec profit. Et Heidegger vous intéressera. Si vous vous plongez maintenant dans Heidegger, vous risquez de vous engluer. Vous voyez, parce que c'est un séducteur, Heidegger. C'est un séducteur, et si vous êtes séduit par lui, vous resterez au niveau heideggerien. Alors, je crois qu'au niveau de Heidegger, on ne va pas jusqu'au bout. On reste dans une pensée symbolique, dans une pensée poétique. Alors, comment je peux saisir ce niveau poétique et symbolique de Heidegger, c'est assez facile à comprendre. C'est que pour lui, l'être n'apparaît qu'à partir du néant. Il y a les étangs, le néant, l'être. Voilà la démarche dialectique. Les étangs. La connaissance des étangs, c'est tout ce qui est de l'ordre sensible, de tout ce qui apparaît. La connaissance des étangs, c'est la connaissance, ce sont les connaissances scientifiques. Nos connaissances scientifiques restent au niveau des étangs. On pourrait dire qu'au niveau des étangs, c'est tout ce qu'on pourrait dire, la connaissance catégoriale. Notre connaissance catégoriale, prenant catégorie au sens aristotélicien, c'est-à-dire la connaissance des diverses déterminations. Une connaissance qui reste liée à l'espace et au temps. Une connaissance qui reste liée à l'espace et au temps, c'est la connaissance des étangs. Nous devons nier les étangs. Les étangs, quand je vous vois, vous êtes des étangs. C'est bien évident. Vous êtes des étangs, je peux vous étudier selon l'espace et le temps, vous avez telle situation, vous êtes dans tel temps, vous avez une génésis, un devenir, ça implique un devenir. Et c'est le problème du devenir et de l'être qu'on retrouve, c'est ça qui est intéressant chez Heidegger. Chez Heidegger, il y a ce grand intérêt, c'est qu'on retrouve le problème de la philosophie métaphysique, ou de l'ontologie fondamentale, peu importe comment vous l'appelez. Mais c'est le problème, on le retrouve à l'origine. On redécouvre le désir de dépasser le devenir pour penser l'être. Alors il faut nier le devenir, et c'est là la pensée dialectique. La dialectique est toujours une pensée où la division est capitale. C'est ça qu'il faut bien se rendre. Vous voyez, il y a un petit blocage entre séparation et distinction. La dialectique ne fait pas la distinction entre les deux. Et c'est pour ça que c'est toujours un domaine de la division. Hein. On divise, on sépare. Mais une séparation qui n'est plus une distinction. Entre le devenir et l'être, c'est une distinction que nous faisons. Je ne sépare pas le devenir de l'être en vous. Mettez d'un côté votre devenir et de l'autre côté votre être. Hein. Essayez de voir. Vous verrez que votre devenir pèse beaucoup plus lourd que votre être. Parce que vous êtes des êtres qui pouvaient peser longuement au point de vue du devenir, tandis qu'au point de vue de l'être, alors quoi? On peut distinguer, on ne peut pas séparer. Séparer en vous un devenir. Vous êtes des êtres qui sont nés à tel endroit, à tel lieu, depuis un certain temps. Vous voyez, ça c'est votre devenir, et c'est votre être aussi. C'est bien évident que c'est votre être. Vous pouvez distinguer les deux, vous ne pouvez pas les séparer. Lui va séparer l'autre. Et c'est là l'erreur. Hein. Et c'est là où je dis, il reste une pensée dialectique. Heidegger n'a pas dépassé la dialectique hegelienne comme procédé de connaître. Il n'a pas redécouvert l'analogie. Et tout est là. Il reste dans une pensée qui de fait, fait l'opposition entre le devenir et l'être. Alors, il faut penser l'être. Penser l'être, redécouvrir l'être, c'est en ce sens-là qu'il rejoint Parménide. Penser l'être, c'est l'ontologie fondamentale. Il faut bien inventer une nouvelle ontologie. Vous comprenez que c'est un abus du mot, hein, ontologie fondamentale. Est-ce que l'ontologie n'était pas nécessairement fondamentale? Et je comprends très bien pourquoi il dit l'ontologie fondamentale, c'est parce qu'il sépare le devenir de l'être. Alors s'il sépare l'ontologie de l'être, il faut parler d'une ontologie fondamentale, d'une ontologie radicale, fondamentale. Mais c'est quoi? C'est un petit peu un peu. Alors, pour bien séparer l'être du devenir, pour que l'être apparaisse, il faut le néant. Le néant va supprimer tout devenir. Je supprime tout devenir par le néant, et sur le néant apparaît l'être. L'être n'apparaît que sur le néant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce néant? C'est là où c'est très très difficile. Valens a essayé d'exprimer ça et il a dit pas du tout, vous n'avez rien compris à ma pensée. Parce que c'est très difficile de savoir exactement ce que c'est que ce néant. Ce néant, c'est pas seulement le non-être. Vous voyez, on serait tenté de dire ça. Et on peut le penser comme ça, c'est pas si bête de le penser comme ça. Le non-être, c'est quoi? C'est un être de raison. Un être de raison, le non-être. C'est vous qui le fabriquez, le non-être, hein? Vous êtes capable de fabriquer le non-être. C'est un être de raison. Vous réalisez le non-être. Pourquoi pensez-vous le non-être? Vous pensez le non-être pour mettre en pleine lumière l'être. Regardez Parménide, hein, le poème de Parménide. Il faut lire ça. C'est bon de relire le poème de Parménide. Eh bien, quand vous regardez Parménide, vous voyez qu'il y a la révélation de l'être. Et pour mettre en pleine lumière ce que c'est que l'être, on dit l'être. Il est impossible qu'il ne soit pas. Donc vous vous servez du non-être pour mettre en lumière l'être. Pour faire apparaître l'absolu de l'être, vous vous servez du non-être. Ça c'est notre propre manière de connaître. Nous nous servons du non-être pour manifester l'être. Alors on pourrait dire, Heidegger fait ça. Heidegger se sert du non-être pour manifester l'être. C'est pas ça. C'est pour ça que c'est très différent de Parménide. Bien qu'il s'appuie sur Parménide, c'est très différent de Parménide. C'est pas du tout la pensée de Parménide. Parce que Parménide se sert du non-être, c'est très vrai, le non-être apparaît avec Parménide. Dès que l'être apparaît, le non-être apparaît. Tout de suite. Philosophiquement, ça ne peut pas être autrement. Et alors, on se sert du non-être pour montrer l'absolu de l'être. Mais alors, le non-être vient après l'être. On dit un petit mouvement d'ordre qui est très intéressant à saisir. Pour Parménide, l'être est premier, le non-être est second. Pour Heidegger, le non-être est premier et l'être est second. Ah, c'est très très curieux ça. L'ordre est différent entre les deux. Si l'ordre est différent entre les deux, ça prouve justement que le non-être n'est pas le même chez Parménide et chez Heidegger. Chez Heidegger, le non-être, le néant, c'est pour montrer la distance qui existe entre les étants et l'être. Vous voyez ? Toujours très intéressant de voir comment on utilise le non-être. On peut l'utiliser en fonction de l'être, on peut l'utiliser en fonction de l'étant, pour lier toutes les déterminations, tout l'aspect catégorial, pour que, à partir de là, l'être apparaisse. Et c'est pour ça que je ne peux pas séparer l'être du néant. Tandis qu'en Parménide, le non-être n'est pas l'être. Il est complètement séparé. Le non-être va expliquer le devenir. Dans tout devenir, il y a du non-être. Tandis que dans l'être, il n'y a pas de non-être. Pour Parménide. Oui. Tandis que dans la pensée Heidegger, et ça c'est la pensée réaliste, Parménide est un réaliste. Tandis que dans la pensée heideggerienne, le néant est toujours lié à l'être. Je ne peux pas penser l'être sans le néant. Ça, je crois, dans la pensée heideggerienne. Je ne peux pas penser l'être sans le néant. C'est sur le fond sonore du néant, n'est-ce pas, qu'apparaît l'être. Alors, à ce moment-là, si vous comprenez que c'est sur ce fond sonore du néant qu'apparaît l'être, c'est l'abîme. Vous voyez, au fond, le néant, c'est l'abîme. Je crois que c'est une valeur d'abîme. C'est abyssable, le néant. C'est quelque chose comme ça. C'est des iodes. Et c'est sur ce fond abyssal du néant qu'apparaît l'être. Et l'être ne peut pas, l'être ne peut pas se séparer du néant. Il est toujours lié, pensée dialectique. Oui, je ne dis pas que l'être est la synthèse, mais il y a un petit peu ça. L'opposition radicale entre les étangs et le néant, ça c'est très vrai. Les étangs, c'est de l'ordre catégorial, c'est de l'ordre des déterminations. Le néant, c'est la négation de toutes les déterminations. J'aimerais presque mieux dire, plutôt que néant, la négation de toutes les déterminations. C'est pas le non-être au sens absolu. C'est prendre des distances par rapport aux déterminations. Il n'y a aucune détermination. Dépasser toutes les déterminations, dépasser tout ce qui est catégorial, alors à ce moment-là, apparaît l'être. Oui. C'est donc la négation de toutes les déterminations, l'opposition la plus forte qui soit entre les états et l'être, et apparaît l'être. Alors, ce n'est pas la synthèse des deux, hein, puisque c'est quelque chose de qui apparaît lié au néant, qui apparaît lié au rien, le néant ou le rien. Et l'être apparaît, et à ce moment-là, je pense l'être. Donc, je ne peux pas penser l'être sans le néant, sans passer par le néant. Et le néant s'oppose aux états. Donc vous voyez, c'est que je crois dans cette pensée, il y a quand même un aspect dialectique qui demeure, et il n'y a pas au sens propre une redécouverte de l'être. Alors c'est très difficile, hein, parce que Heidegger reconnaît que l'être, est-ce que l'être est antérieur à la pensée ou pas antérieur à la pensée? Au fond, l'être ne peut exister que dans la pensée. Alors là, il retrouve Parménide. La pensée et l'être sont identiques. C'est ce que dit Parménide. La pensée et l'être sont identiques. Eh bien, pour Parménide, l'être est toujours dans pensée-l'être. Il ne peut exister que là. Il ne peut pas exister dans objectivement, indépendamment de la pensée. Tandis que pour nous, nous dirons, nous essaierons de comprendre que l'être existe indépendamment de la pensée. Vous existez sans que je sois là pour vous penser. Vous avez existé avant que je vous pense. Heureusement, pas avant que Dieu vous ait pensé, mais avant que je vous pense. Vous existiez. Et votre être s'impose à la pensée. Tandis que je ne peux pas dire ça. Que l'être de Heidegger s'impose à sa pensée. Il est contemporain de sa pensée. L'être apparaît dans la pensée. Pensez-l'être. Ça, pour lui, ce qu'il y a de plus grand, c'est l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Et dans l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est pas uniquement penser l'être, c'est mettre la distance entre la pensée et l'être. Quand j'interroge, qu'est-ce que c'est que l'être? Et alors, qu'est-ce que c'est que l'être? Reste le moment suprême de la métaphysique, de l'ontologie fondamentale. Alors, vous voyez, c'est très difficile, c'est intéressant parce que face à Nietzsche, c'est redécouvrir l'absolu de penser l'être. Mais ce n'est pas suffisant dans la réaction. Pourquoi? Parce qu'on est encore lié à une pensée dialectique. Et alors l'être n'est pas donné comme ce qui détermine vraiment ma pensée, puisque l'être et la pensée sont contemporains. Face à Nietzsche et au-delà de Heidegger, essayons de redécouvrir ce que doit être une véritable métaphysique. disons, philosophie première. Et je dis philosophie première pour mieux me distancer, vous voyez, de l'ontologie fondamentale, de l'ontologie tout court de Wolff, et de la métaphysique telle qu'on la comprend habituellement. Alors il s'agit de redécouvrir la source première d'une philosophie première. Heidegger s'appuie sur Parménide, je peux très bien dire « utilisons les Grecs ». Ça nous aide, étant donné qu'on fait quelque chose qui est difficile à faire. Redécouvrir ce qu'est la philosophie première. Je ne peux pas vous envoyer un Maritain. Maritain a dit des choses intéressantes, mais nous le verrons, c'est quelque chose qui reste pas suffisamment profond. Je crois qu'on peut le dire. L'intuition de l'être de Maritain reste encore trop liée à tout un aspect d'intuition. Il y a un parallélisme qui serait très intéressant à voir par Heidegger et Maritain. Ce serait très intéressant à voir. Maritain est évidemment plus proche, beaucoup plus. Maritain ne dit pas du tout qu'on découvre l'être à partir du néant. Maritain dit qu'on découvre l'être à partir d'une intuition. Et vous savez bien comment ça s'est fait, parce que j'ai connu Ravissa et j'ai connu Maritain, alors je peux le dire que je sais comment ça s'est, comment l'intuition de l'être est née. C'est Raïssa qui, un beau jour, regarde le chat. Elle dit, le chat existe. J'existe. L'être. Puisque l'être, il est dans le chat, il est en moi. Comment se fait-il qu'il est dans le chat et en moi? Puisque le chat existe, et il existe autrement que moi. Et que j'existe autrement que le chat. Alors à ce moment-là, il y a comme une espèce d'intuition qui nous permet, au-delà de la diversité, de saisir l'unité. Et c'est cette intuition, au-delà de la diversité, qui saisit l'unité de l'être, qui fait dire à Maritain, à la suite de Raïssa, que l'être est saisi dans une intuition. L'être est dans une intuition. Il faut cette diversité, le chat et moi, au moins, comme diversité, la vache et moi, n'est-ce pas ? Et puis, au-delà de cette diversité, je saisis qu'il y a une certaine unité. Alors, je saisis dans cette unité, dans cette diversité, et au-delà de cette diversité, le ti koinon, ce qu'il y a de commun, ce qu'il y a d'un. Et j'ai l'intuition de l'être à ce moment-là. Alors, pourquoi pas accepter cela ? C'est assez beau ça, c'est assez beau cette intuition de l'être. Les sept leçons de l'être de Maritain, c'est aussi une chose intéressante à lire, c'est plus vite fait que Heidegger. C'est une chose intéressante à lire, les sept leçons de l'être. Mais faisons attention, lisez-les, vous pouvez très bien les lire, ça vous éveillera, si vous avez un peu de temps. Lisez les sept leçons sur l'être, ça vous éveille à quelque chose de particulier, d'intéressant, qu'il y a quand même quelque chose d'absolu qu'il faut découvrir. Maritain reconnaît, vous voyez, les étangs, c'est le chat et moi. L'au-delà du chat et de moi, il y a l'être. Donc, il y a quelque chose d'analogue. Hein. Les étangs, l'au-delà des étangs, il y a l'être. Mais la différence, c'est qu'on ne passe pas par le néant, bien que on y passe implicitement, puisqu'on dit les étangs, le chat, et moi, nous existons. Donc, l'être n'est ni le chat, ni moi. L'être, il est. Ce qui fait l'unité entre le chat et moi. Donc, il y a une certaine négation de l'être par rapport au chat, par rapport à moi, qui me permet de saisir ce quelque chose de commun. C'est encore à travers une négation que je saisis le quelque chose de commun. Et j'ai l'intuition à ce moment-là de l'être. Vous voyez, vous retrouvez la négation. C'est pour ça que je dis, c'est pas quelque chose, si vous voulez, de totalement hétérogène, la pensée de Maritain et la pensée de Heidegger. Il y a des parentés entre les deux. Et c'est intéressant de voir le parallélisme entre les deux. Nous allons donner une troisième position. Comme ça, vous pourrez choisir. Hein. Nous allons donner une troisième position. une troisième position pour essayer de redécouvrir une philosophie première qui n'est ni celle de Heidegger, ni celle de Maritain, qui, je crois, est la seule pleinement réaliste. Parce que si je n'accepte pas celle de Heidegger, c'est qu'il y a encore une méthode dialectique et qu'au fond, l'être pratiquement n'est pas vu tel qu'il est. Il est vu à travers le néant. Si je n'accepte pas celle de Maritain, c'est que l'être n'est pas vu non plus en lui-même tel qu'il est. Il est vu à travers le dépassement des deux. Et donc à travers une intuition. L'intuition porte plus sur les formes que sur ce qui est. Ça, nous y reviendrons. Il y a quelque chose de juste dans Heidegger, il y a quelque chose de juste dans Maritain. Il faudrait essayer de comprendre ce quelque chose de juste dans Maritain, ce quelque chose dans Heidegger, mais je suis obligé de les dépasser pour essayer de redécouvrir quelque chose de nouveau. Alors, si vous le voulez, vous prendrez une quatrième position, n'est-ce pas ? Au-delà de ce que je vous dis, vous essaierez de trouver une quatrième position, parce que toujours, les disciples doivent dépasser les maîtres. Alors, il faut aller plus loin. Il faut toujours aller plus loin, trouver une quatrième position. Je vous donne au moins la troisième, parce que si vous n'avez pas la troisième, vous ne pourrez pas découvrir la quatrième. Alors, il faut au moins découvrir la troisième. On va se... L'origine de nos connaissances se prenne de l'expérience. Nous avons perdu. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Nous avons perdu le sens de la philosophie première et de la métaphysique. Tous, nous avons perdu. Il faut le redécouvrir. Comment le redécouvrir ? Est-ce que la métaphysique m'est donnée comme un don de Dieu, comme une révélation ? Non, ce n'est pas une révélation. Est-ce que la métaphysique m'est donnée comme une intuition artistique ? Non. C'est le réel tel qu'il est que je cherche. Donc, il ne peut m'être donné qu'à travers une expérience. Une philosophie qui ne se base pas sur l'expérience, qui se base sur la négation, ne peut pas être philosophie réelle. Le primat de la négation qui existe dans la dialectique, la pensée dialectique, ne pourra jamais me mettre en présence d'un réel. Vous savez bien, la modernité, je vous l'ai déjà dit, hein, la modernité, elle se caractérise, si on veut caractériser la modernité au point de vue philosophique. La modernité, elle se caractérise par le primat du néant sur l'affirmation. Ça, il faut y réfléchir longuement, ça. Hein, parce qu'il s'agit de comprendre ce que c'est que la modernité dans laquelle nous sommes. Alors, la modernité, c'est le primat de la négation sur l'affirmation. Une fois qu'on a compris ça, on voit qu'on ne peut pas entrer dans ce jeu. C'est un jeu dialectique. C'est un jeu dialectique. Mettre le primat sur la négation, sur l'affirmation, c'est un jeu. C'est tout simplement m'exalter. C'est l'exaltation du sujet. Et c'est l'exaltation du sujet, vous comprenez, quand vous rejetez tous les étangs en disant les étangs, c'est rien du tout, au fond, vous vous exaltez. C'est pour ça que dans Heidegger, on retrouve une subjectivité transcendantale de Kant. On retrouve Hegel, la méthode, et on retrouve Kant. Il n'a pas dépassé Kant, il n'a pas dépassé Hegel. Il n'a pas dépassé Hegel. Donc il reste dépendant de la dialectique hegelienne, il reste dépendant de la subjectivité transcendantale. Si vous mettez la négation en premier lieu, nécessairement c'est la subjectivité transcendantale qui passe. C'est pour ça que c'est si important de saisir cette question du primat de la négation par rapport à l'affirmation. Eh bien, si nous voulons redécouvrir un réalisme, si nous disons que la philosophie, c'est la philosophie de l'homme, et c'est une philosophie pour l'homme, c'est donc une philosophie réaliste, nous devons repartir de l'expérience. Impossible autrement. Et de l'expérience, dans ce qu'elle a de plus fort, c'est-à-dire l'expérience externe, qui implique l'expérience interne, c'est bien évident, mais c'est l'expérience externe. Ça, c'est capital, de comprendre le point de départ. Hein. Je ne prends pas le point de départ de Heidegger, je ne prends pas le point de départ de Marine. Pourquoi ? Ni l'un ni l'autre ne sont assez réalistes. Donc je ne peux pas prendre ce point de départ. Parce que l'un et l'autre ne respectent pas la dimension de l'homme plénier. Alors je pars de l'expérience externe et interne. Cette expérience, nous l'avons déjà vue, alors je peux aller très vite ici, mais il faut le rappeler. Cette expérience première, vous savez bien, c'est le travail. Face à Heidegger, je reviens au travail. Intéressant. Face à Maritain, je reviens au travail. Maritain n'a pas fait de philosophie du travail. Heidegger n'a pas fait de philosophie du travail. Il faut une philosophie du travail. Très important. Seconde expérience, amour d'amitié. Je rappelle, enfin, des choses connues, mais je les reprends. Deux grandes expériences, ces deux grandes expériences humaines fondamentales sur toute la philosophie réaliste. Le travail, l'amour d'amitié. Troisième, coopération, et ainsi de suite. Je reprends les cinq grandes expériences. Ils sont comme les cinq sources à partir de quoi je commence à philosopher. Il s'agit de comprendre un peu ce que c'est que cette expérience dans laquelle je me trouve. Et je vois que ces cinq grandes expériences implique toutes quelque chose de commun, qui est encore l'expérience. Hein, parce que je pourrais dire quelque chose de commun à la manière de Maritain dans l'intuition. Je dis non, c'est pas quelque chose de commun qui est extérieur à l'expérience. Je veux dire que ces cinq expériences impliquent quelque chose de fondamental et de premier. Le jugement d'existence, c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Ceci est. Quand je travaille et que j'ai l'expérience du travail, le jugement d'existence est présent. Non pas comme un au-delà du travail. Vous savez, bien avec l'intuition. C'est pas un au-delà du travail. À l'intérieur même du travail que vous existez, j'espère. Comment vous travaillez là? Travaillez du bout des doigts. J'existe, je pense et je touche, avec une paire de dents, les ustensiles du travail, parce que le travail, c'est pas l'être. Alors, vous voyez, à ce moment-là, l'être est en dehors du travail. Pas du tout. Le travailleur est engagé dans son travail. Il existe en travaillant. Donc, le jugement d'existence est présent dans le travail. Dans l'amour d'amitié, c'est la même chose. Quand j'aime, je suis présent à mon amour. Et présent à celui que j'aime. Donc, le jugement d'existence est présent dans la coopération également. Donc, comprenons bien, ce n'est pas une intuition au-delà de la diversité de cette expérience. Parce qu'on retomberait dans la perspective de Maritain. Je dis non. Chacune de ces expériences implique un jugement d'existence. Mais l'expérience habituelle ne met pas en lumière ce jugement d'existence. Quand vous aimez quelqu'un et vous êtes heureux de vous trouver auprès de lui, en disant « comme ça me fait plaisir de te retrouver », vous ne dites pas « j'existe, tu existes ». Non, ça briserait hein, quelque chose. Hein, ou quand vous travaillez, vous ne dites pas, tiens, j'existe. Et la matière existe aussi. Nous existons à deux. Et nous nous regardons. À ce moment-là, vous arrêtez le travail. Vous voyez, le jugement d'existence est présent, mais il est implicite. Il est en acte, mais il est implicite. Mais je peux l'expliciter. D'habitude, je ne l'explicite pas. Je suis tout à fait d'accord. D'habitude, je ne l'explicite pas. C'est pour ça que la philosophie première a ce caractère tout à fait particulier, qu'on explicite quelque chose que d'habitude, on n'explicite pas. Oui, le dévoilement de Heidegger. Là, il y a quelque chose de juste. Il y a un dévoilement. Je dévoile le jugement d'existence dans mon travail, dans mon amour d'amitié, dans ma coopération, dans le jugement de voir ceci devient, dans le fait de découvrir ce que c'est que le vivant. Le jugement d'existence est présent. Mais il n'est pas dévoilé. J'ai parfaitement le droit, et non seulement le droit, mais je dirais, si je suis philosophe, je dois aller jusqu'au bout. Je dois dévoiler ce qu'il y a de commun à ces cinq expériences. Ce qu'il y a de commun à ces cinq expériences, c'est justement qu'il y a le jugement d'existence, ceci est. Et je le dévoile. Et j'ai parfaitement la permission de le faire. C'est une nécessité pour mieux comprendre. Et de mieux comprendre que l'expérience habituelle n'implique pas ce dévoilement, mais que je puis le faire. C'est à ce moment-là où je comprends comment ce jugement d'existence est comme une méta-expérience. Vous voyez, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'expérience, mais qui n'est pas l'expérience. L'expérience d'habitude, la conscience que j'ai de l'expérience, ce n'est pas du jugement d'existence. C'est que je travaille. Le travail reste au niveau des catégories. L'amour d'amitié reste au niveau des catégories, d'une certaine manière. D'une certaine manière. La coopération reste au niveau des catégories. Chacune de ces expériences a une détermination. Tandis que le jugement d'existence, lui, comme tel, ce que nous allons essayer de voir, il est au-delà. Il est présent dedans. Oui, et c'est là toute la différence avec Heidegger. Je ne mets pas entre l'expérience et le jugement d'existence le néant. Le rien. Non. Je dévoile, à travers l'expérience, le jugement d'existence. Et je ne dis pas du tout que l'être est extérieur à l'étant. L'étant, qu'est-ce qu'il serait si l'être était extérieur? Il serait rien. Oui, il serait rien. L'être n'est pas extérieur à l'étant. L'être est présent dans l'étant. Mais l'être est caché par l'étant. Ah, c'est très vrai, ça. L'étant cache l'être. C'est pour ça que le travail cache l'être. L'amour d'amitié cache l'être. La coopération, ça cache l'être. Chaque fois, ça cache. Alors, je dois dévoiler. Je dois dévoiler en prenant conscience que je peux réfléchir sur la profondeur de mon expérience. La profondeur de mon expérience, c'est d'impliquer le jugement d'existence. Et c'est dans la ligne même de mon expérience. Le jugement d'existence ne peut se découvrir qu'à travers l'expérience. L'expérience, surtout l'expérience externe, déjà dans l'expérience interne. Parce que je peux dire, je pense, donc je suis. Hein? Vous voyez, hein? Je pense, je suis. Si je n'existais pas, je ne penserais pas. J'aime, je suis. Donc, à l'intérieur même du jugement d'existence, vous voyez, vous retrouvez là le point de vue Descartes, vous retrouvez là le point de vue d'Occam, c'est très intéressant, mais vraiment quelque chose de tout à fait premier. Vous voyez, tout se conjugue. Heidegger, Maritain, Descartes, Occam. On est là en commun. Il y a quelque chose de commun entre tous ces gens-là. Ils veulent découvrir l'être de cette manière, à travers l'expérience. Ils ont tous découvert que l'être était un au-delà de l'expérience. Méta-expérience. Cogito. Descartes ne dit pas « je suis, donc je pense ». Non. Il dit « je pense ». Pourquoi ? Parce que la pensée est beaucoup plus proche de sa conscience. Et c'est vrai. Notre pensée est beaucoup plus proche de notre conscience. Notre être n'est pas proche de notre conscience. Tandis que notre pensée est plus proche de notre conscience, c'est évident. Quand je pense, j'ai conscience de penser. Quand j'aime, j'ai conscience d'aimer. Alors, l'expérience que j'ai du travail, de l'amour, d'amitié, c'est au niveau même de notre conscience. Je découvre ça immédiatement. Mais je peux très bien réfléchir que ces diverses consciences que j'ai ont quelque chose de radical, commun. J'existe. Je suis. Ceci est. Oui, je découvre le jugement d'existence, parce que le jugement d'existence, vous pouvez très bien dire je suis, ça m'est égal. Hein. C'est plus proche de Descartes. Alors, comme vous êtes un peu cartésien, on peut remettre ça là, par une mesure de miséricorde. Alors, je suis. Et vous pouvez très bien dire ça, mais c'est pas gênant du tout. Vous voyez, le je suis est en connaturalité avec le jugement interne. Et ceci est en connaturalité avec le jugement externe. C'est intéressant comme croisement, n'est-ce pas ? Parce que c'est un croisement entre les deux. Alors, il ne faut pas séparer jugement interne et jugement externe. L'erreur de Descartes, c'est d'avoir séparé. Alors, l'erreur de Descartes, c'est d'avoir séparé. Oui. D'avoir séparé l'expérience interne de l'expérience externe. Et par le fait même d'avoir séparé le « je suis » du « ceci est ». Donc, il fait une séparation, là, qui est illégitime. Mon expérience est parfaitement d'expérience que quand elle est interne et externe. Les deux sont liés. C'est toujours, les deux sont liés. Si je veux aller jusqu'au bout de l'expérience, alors l'expérience me met en contact avec la réalité. Et si j'ai ce lien entre ces deux expériences, je peux mettre le ceci et je suis en disant, oui, très bien, je passe de l'un à l'autre. Tu existes, j'existe, après tout. Hein, ça ne me retire rien du tout de mon existence que tu existes. C'est pas gênant que tu existes. C'est pas gênant que cette table existe. Elle ne me gêne pas, je ne suis pas du tout jaloux de l'existence de cette table. Le jour où vous commencez à être jaloux de l'existence de la table, c'est dangereux. Ça devient très dangereux, ça devient une espèce de... C'est vrai, c'est... dire que cette table existe en dehors de moi, ça ne me gêne pas que cette table existe en dehors de moi, ça ne me gêne pas que vous existez. Ça ne me gêne pas. C'est intéressant de voir que de fait, le « ceci est » et le « je suis » ne sont pas gênants. Pas du tout. Mais ils se complètent. Ça fait deux aspects différents. Complète, et ça me permet de mieux saisir, du reste. Ça me permet de mieux saisir qu'en effet, l'au-delà de toute expérience, mais à l'intérieur même de l'expérience, c'est un jugement d'existence. Ceci, c'est capital. Hein. Nous verrons que c'est là où tout de suite on se sépare de Descartes, on se sépare de Hockham, on se sépare de Heidegger, on se sépare de Marta. La gare de triage, c'est là. C'est une fois qu'on a bien saisi ça, après on peut développer la métaphysique. Mais c'est très important le point de départ. C'est très très important de bien saisir le lien qui existe entre le jugement d'existence et votre expérience. C'est pas si facile que ça, hein. Croyez-le bien. Parce que des gens aussi intelligents que Descartes, aussi intelligents qu'Hockham, aussi intelligents que Heidegger, aussi intelligents que Maritain, n'ont pas vu ça. Ça prouve que c'est pas si facile. Hein. Alors, il faut soi-même le redécouvrir. Si on ne redécouvre pas soi-même, qu'on écoute, disons, non, je suis, ça ne va pas de soi. Non, ça va pas, on n'a pas compris du tout. Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Il faut redécouvrir comment l'intelligence est capable, en faisant son expérience, en expérimentant le travail, d'arriver elle-même, comparativement, et c'est pour ça que j'aime mieux prendre les cinq expériences que de partir tout de suite du jugement d'existence. Parce que le jugement d'existence vous est toujours donné dans une expérience. Toujours. Interne ou externe. Et donc il vaut mieux partir de ces expériences et puis comprendre qu'il y a quelque chose de radical à l'égard de ces expériences que d'habitude je ne dévoile pas. On va me dire que c'est une maladie de vouloir dévoiler ça. Mais j'ai tombé sur le dévoilement. C'est tout à fait une maladie. Si justement vous dites que c'est là le point de départ de la philosophie première, mais pourquoi faites-vous ça? Laissez ça. Ça a été une très grave maladie de vouloir faire de la philosophie première. Alors pourquoi suis-je obligé de le faire? C'est quand même important de saisir ça. Pourquoi suis-je obligé de le faire? Pourquoi je ne pourrais pas rester uniquement devant mon expérience du travail, mon expérience d'amour d'amitié, mon expérience de la coopération, et puis dire, bon, je reste là. Là, il y a quelque chose de net, hein. Je touche quelque chose que tout le monde peut accepter. Le travail, tout le monde accepte. Personne ne refuse. L'amour d'amitié, personne ne refuse. La coopération, personne. Ah, mais l'amour d'amitié, on la refuse. Donc ça prouve bien qu'elle a une petite maladie mentale. Hein. C'est une petite maladie mentale qui veut découvrir quelque chose qu'on pourrait beaucoup mieux d'enfouir. Il vaut beaucoup mieux l'enfouir. Joseph, qu'on enfouit, qu'on vend aux Égyptiens. Il vaut beaucoup mieux l'enfouir, de laisser vraiment complètement ignorer le jugement d'existence. Alors à ce moment-là, vous n'avez pas de tracas. Tandis que dès que vous le dévoilez, alors pourquoi vous le dévoilez? C'est une nécessité de l'intelligence, un appétit naturel de l'intelligence. Oui, c'est l'intelligence qui veut aller jusqu'au bout. L'intelligence doit aller jusqu'au bout. L'intelligence, dans son langage même, vous voyez, alors ça c'est le langage qui me montre. Dans le langage, l'intelligence dit je suis. J'existe, ça a été dit. Alors est-ce que je dois le considérer comme une maladie ou est-ce que je dois le considérer comme une nécessité, un appétit naturel de l'intelligence? Y a-t-il là un appétit naturel de l'intelligence que je saisis ou est-ce que je saisis là quelque chose comme monstrueux? C'est monstrueux. C'est très vrai, c'est quelque chose de second, c'est pas la peine. Il vaut mieux rester uniquement dans la bonne expérience du travail, dans la bonne expérience de l'amour d'amitié. Est-ce qu'il y a là quelque chose que je dois saisir, que je dois expliciter? Alors on essaiera de revoir ça, de la nécessité de découvrir ce jugement d'existence.